Très agréable pour moi de me trouver parmi vous. Alors, le titre du message de cet après-midi peut peut-être être impressionnant, mais il est intéressant pour nous de nous pencher sur ce texte aujourd'hui parce qu'il s'adresse à des chrétiens d'origine grecque. D'une manière générale des païens, donc. Et l'apôtre Paul, qui a donc été à l'origine de la conversion de pas mal de personnes de Thessalonique, après énormément d'épreuves qu'il a connues lui-même, et puis également l'Église est en quelque sorte aussi sous la pression de difficultés qui viennent de l'extérieur, et à cause probablement de la culture grecque, du fait qu'il n'est pas une culture juive, donc une culture imprégnée par l'Ancien Testament, alors certains d'entre eux pouvaient se décourager. C'est sur les deux épîtres à peu près quelques reproches, quelques exhortations qui sont adressées par l'apôtre. Il y en avait qui arrêtaient de travailler parce qu'ils disaient « le Seigneur revient, c'est pas la peine de se fatiguer à travailler ». Donc, il versait dans une forme d'oisiveté. D'autres qui, à l'image de la société grecque dans laquelle qu'ils venaient de quitter par la conversion, se trouvaient confrontés à toutes sortes d'immoralités, comme c'était le cas à cette époque-là, c'est le cas aujourd'hui, au 1er siècle et puis au 21e siècle. C'est pratiquement la même chose. Et c'est pour cela que l'apôtre va les encourager, justement, d'une manière extrêmement intelligente, parce qu'il va leur dire en quelque sorte qu'ils ne sont pas tout seuls pour marcher dans cette sanctification. La sanctification, ça peut toujours nous sembler un petit peu compliqué, mais ce qui ressort de ce texte, comme nous allons le voir, c'est que Dieu est avec nous, c'est son projet, et c'est sa volonté, son désir en quelque sorte de nous transformer. Alors comme nous l'avons vu, le chapitre 4 débute par un encouragement à marcher dans la sainteté afin de plaire à Dieu. Donc si on se pose la question comment plaire à Dieu, la réponse est très simple dans cette épître, comme dans les autres d'ailleurs, eh bien, demandons au Seigneur qu'il nous conduise à marcher dans cette sanctification, dans cette sainteté. Et en même temps, ce chapitre 4 se termine par l'enlèvement des chrétiens, puisque l'apôtre, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, va parler de ceux qui vont partir de leur vivant quand le Seigneur va revenir, parce que c'était une des grandes préoccupations des Thessaloniciens. Il va redévelopper le thème du retour du Christ dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Et en même temps, il parle à ceux qui seront vivants au moment du retour du Seigneur, ils partiront, puis ceux qui seront morts, eh bien, ensuite... ceux-là donc monteront également en présence de Dieu. Et c'est intéressant parce que il leur demande d'être sanctifiés et de marcher dans la sanctification avec comme objectif, comme toile de fond, comme ligne d'horizon, l'union pour l'éternité dans la gloire avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, comme vous le savez, cet épître qui contient 5 chapitres se termine d'une manière assez magistrale avec au chapitre 5, versets 23 à 24, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et l'apôtre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de conclure ce passage, « Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » C'est-à-dire qu'il est dans la volonté de Dieu de nous sanctifier esprit, âme et corps, donc l'être tout entier. Si on réfléchit un petit peu à des siècles précédents, ça nous fait penser à Enoch. Dans le fond, ce qui nous est demandé, c'est quelque chose qui a des similitudes, qui nous est demandé de vivre, ça a des similitudes avec la personne de Noé. D'Enoch, pardon, puisqu'il est dit dans la Genèse, chapitre 5, verset 24, « Enoch marcha avec Dieu ». C'est à cela que nous sommes invités, marcher avec Dieu. Ensuite, Enoch était agréable à Dieu, donc la marche dans la sanctification. Après avoir choisi de marcher avec Dieu, de l'avoir donc choisi comme Seigneur, reconnu comme Créateur et Maître absolu, alors on désire lui être agréable, à l'image donc d'Enoch, et c'est l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 5, qui nous dit que Enoch était agréable à Dieu. Et parce que Enoch a marché avec Dieu et qu'il lui a été agréable, alors Enoch fut enlevé. Genèse, chapitre 5, verset 24, et Hébreux, chapitre 11, verset 5. C'est exactement ce qui nous attend. Alors, vous pourriez changer votre prénom en rajoutant plutôt à votre prénom Enoch. Ça va vous donner une image un peu de ce que le Seigneur désire pour chacun d'entre nous. Au verset 1, l'apôtre dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous conduire et plaire à Dieu ?» Donc, l'apôtre est en train de rappeler des vérités aux Thessaloniciens. Ils n'étaient pas ignorants. Ils avaient déjà été instruits, mais en quelque sorte, l'apôtre, comme dans une manière d'éduquer ses enfants spirituels, comme nous éduquons nos propres enfants dans la chair, eh bien, nous répétons les choses, nous redonnons l'objectif à suivre, les conditions à remplir pour devenir un homme, une femme, dans la société, etc. Et donc, Paul leur rappelle tout simplement les choses, il leur dit, puisque vous avez appris de nous, comment vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Alors, on pourrait se dire, ben, pourquoi est-ce qu'il en rajoute, puisque c'est ce qu'ils font. Et fort heureusement, l'apôtre va leur dire, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard, donc dans cette sanctification, de progrès en progrès. C'est-à-dire, ne vous laissez pas troubler ou satisfaire du maire superficiel parce que vous êtes déjà arrivé à un certain stade d'obéissance, mais persévérez dans ces choses. Alors pourquoi persévérer dans ces choses ? Pourquoi est-ce qu'ils les conjurent ? Ben parce qu'ils sont en présence d'une opposition farouche de la part des autorités de l'époque, mais aussi une opposition de la part de l'ennemi de nos âmes qui va essayer en quelque sorte de ralentir notre marche chrétienne, voire de nous arrêter dans la vie chrétienne, voire de nous décourager, voire de nous accabler. Et donc l'apôtre leur dit, mais face à toutes ces difficultés, réelles ou à venir pour d'autres, eh bien, ayez pour objectif de marcher de progrès en progrès. L'apôtre apprécie la sainteté pratique des croyants, donc il donne une bonne appréciation, hein. C'est là ce que vous faites, tout en les encourageant à progresser encore. Pourquoi ? Parce que la sainteté, la sanctification qui plaît à Dieu, c'est un processus, non un accomplissement. Ce qui est encourageant pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu nous rappelle que nous allons avoir plusieurs stades dans la sanctification, dans ce thème de la sanctification dans la Bible. Et là, il est question du deuxième stade, c'est-à-dire du stade où Dieu nous a, après nous avoir choisis, va nous conduire de progrès en progrès. Et donc, nous devons, en tant que chrétiens, ne jamais oublier, quoi qu'il nous arrive, que nous sommes dans une marche de progrès en progrès. Parce que souvent on pourrait se trouver découragé, déçu par soi-même, parce que tantôt on obéit au Seigneur et tout est formidable, on est rempli de l'Esprit, puis des fois on désobéit ou on a une espèce de négligence coupable qui nous ralentit, qui nous décourage. Alors là, dans le contexte, l'apôtre rappelle que c'est un accomplissement, progrès, marcher de progrès en progrès. Et ça nous rappelle une vérité que vous connaissez, j'ai conscience que comme les Thessaloniciens, vous connaissez ce que je suis en train de vous partager. L'autre vérité, c'est que l'appel du Dieu Saint ne laisse pas le pécheur inchangé. Nous ne sommes pas devenus chrétiens pour rester au stade normal des choses. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des pécheurs rachetés qui n'auraient pas été régénérés. Nous sommes invités à connaître de progrès en progrès. Et c'est enthousiasmant de savoir cela. Alors, pour voyager avec mon ministère et me retrouver dans différentes églises au contact d'un nombre assez important de chrétiens à chaque fois que je me déplace, je suis assez frappé des fois d'entendre toujours des chrétiens me dire, en déplorant certaines situations, de dire « Ah, oh, bah oui, mais on n'est que des hommes. » Alors, moi, ça me fait drôle parce que c'est comme si la vie de résurrection, la vie nouvelle en Christ n'avait pas un impact plus important que cela, quoi. Voilà, il y a des divisions, il y a des disputes, il y a de l'hypocrisie, on est que des hommes. Hein. Pour moi, cette résignation, on va appeler ça comme ça, c'est une résignation à mon avis, cette forme de résignation est assez coupable. Parce que c'est la négation de la puissance de la vie de résurrection. Je veux dire, quand je vois un chrétien, non pas jeune, hein, mais qui a déjà des décennies de vie chrétienne, me sortir ce genre de propos, me tenir ce genre de propos, je me dis vraiment, il a dû oublier, il a dû mettre, en oubli la purification de ses anciens péchés, c'est pas possible, il a oublié ce que c'est que la puissance de la vie de résurrection. Alors, là, je m'adresse à ceux qui ont beaucoup d'années de vie chrétienne. Ne nous laissons pas ramollir par les succès que Dieu nous a accordés et qu'il a accomplis dans nos vies, mais au contraire, soyons toujours désireux de progresser et de voir le vieil homme donc diminuer pour voir le nouvel homme en Christ s'épanouir et se développer. Vous savez, dit l'apôtre, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut pour son peuple, c'est sa sanctification. Alors, sanctifier, ça signifie mettre à part pour servir Dieu. Dans un certain sens, nous le savons, la Bible nous l'enseigne, tous les croyants, tous les chrétiens authentiques, c'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau, ont été mis à part du monde pour servir le Seigneur. C'est-à-dire, on appelle ça la sanctification positionnelle, qui est parfaite et complète en Christ. Christ nous a rachetés par son sang, pardonné nos péchés, mis à part, sanctifiés pour le jour de la rédemption. Ça y est, il y a une sanctification qui est acquise en Christ. Je suis un chrétien, né de nouveau, pour toujours, jusque dans la gloire. Je suis sauvé. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de Christ. J'ai été mis à part pour terminer, en quelque sorte, ma vie physique, pour ensuite basculer dans la gloire de Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle qui habite mon corps mortel, pourra s'exprimer complètement, je verrai enfin Dieu face à face. Et c'est ça la sanctification positionnelle en Christ, je suis sauvé, je suis né de nouveau, je lui appartiens pour l'éternité. Voilà, ça c'est une chose acquise qui n'est jamais remise en cause dans les Saintes Écritures. Ce qui est remis en cause, c'est la façon de marcher avec le Seigneur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est question du tribunal de Dieu, dans l'Épître aux Romains, du tribunal de Christ, dans l'Épître aux Corinthiens. Pourquoi ? Parce que nous aurons des comptes à rendre sur la manière dont nous avons vécu notre vie chrétienne. Une façon de vivre, et donc les récompenses à venir. On met les choses dans le cadre biblique. En 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2, l'apôtre rappelle aux Corinthiens, qui sont pourtant dans une situation bien compliquée, il s'adresse à ceux qui ont été sanctifiés. Ils l'ont été, quelque chose de fait, d'accompli. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. C'est-à-dire, ils sont sanctifiés, mais il faut qu'ils progressent dans cette sainteté. Et en Hébreux chapitre 10, verset 10, l'auteur de l'Épître rappelle, sous la direction du Saint-Esprit, « C'est en vertu de cette volonté, la volonté souveraine de Dieu, que nous sommes sanctifiés, nous le sommes, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. » Voilà, c'est fait. Cependant, dans un autre sens, les croyants, les chrétiens nés de nouveau, doivent se sanctifier, c'est-à-dire se séparer de toute forme de péché. C'est ce qu'on nomme la sanctification pratique ou progressive. Voilà la sanctification qui plaît à Dieu. C'est que nous sommes sauvés pour servir, sauvés pour obéir, sauvés pour manifester dans nos corps mortels la vie de Christ, que Christ soit glorifié en chacun d'entre nous, et dans la communauté à laquelle le Seigneur nous a attachés. L'apôtre Pierre, lui, va, dans sa deuxième épître, présenter les mêmes vérités avec un autre vocabulaire, il va dire, c'est pourquoi frères, en 2 Pierre chapitre 1 verset 10, puisque Dieu vous a appelé et choisi, donc c'est ce qu'on appelle l'élection et la vocation, hein, dans la, là c'est la version Summer, dans ma version, efforcez-vous d'affermir votre vocation et votre élection. Donc chez Summer, c'est pourquoi frères, puisque Dieu vous a appelé et choisi, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Il y a donc quelque chose à vivre. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Vous voyez le contraste avec cette réflexion, on n'est que des hommes. Vous ne tomberez jamais. Très intéressant, cette perspective d'une vie de victoire dans nos corps mortels. Ainsi vous seront grand ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors là, Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et nous emmène dans une considération extrêmement profonde, parce que efforcez-vous d'affermir votre vocation et votre élection. Eh bien, la vocation et l'élection, c'est Dieu qui les a donnés. Et quand il dit « efforcez-vous d'affermir », autrement dit, il nous invite à rencontrer, à mettre en accord notre volonté avec celle de Dieu. La volonté du Dieu Tout-Puissant, c'est dans Jésus-Christ, il nous a adressé une vocation et une élection. Il nous a élus dès avant la fondation du monde. Et là, le Saint-Esprit, au travers de l'apôtre Pierre, nous invite à rentrer, à participer, à développer cette vocation. Cette élection. C'est-à-dire, c'est la rencontre de deux volontés, du chrétien ou de la chrétienne, qui tombent d'accord avec Dieu, donc qui s'offrent. Autrement exprimé, c'est Paul qui va parler dans l'épître aux Éphésiens, si je ne me trompe, lorsqu'il dit participer avec, ou travailler avec crainte et tremblement à votre salut. C'est pas qu'on doit travailler à son salut, on est sauvé en Christ. Mais une fois sauvé, on a quelque chose à vivre. Alors avec crainte, dans le respect de Dieu, et tremblement, c'est dans le souci de lui plaire, hein, c'est pas dans la peur d'être là devant Dieu. Non, c'est le respect qu'on doit à Dieu et le souci de lui plaire. Donc c'est une crainte positive. Je vois avec quel respect vous m'accueillez, vous me saluez depuis tant d'années qu'on se connaît. Je vous observe, je vois bien le respect que vous manifestez aux personnes. Eh bien, c'est pareil, nous, vis-à-vis de Dieu, on manifeste un respect. On est sensible et on ne veut pas déplaire au Seigneur. De la même manière, vous ne souhaitez pas me déplaire et que la réciproque est vraie. Donc, lorsque Dieu prédestine au salut, il appelle conjointement à l'obéissance et à la sainteté. Ce processus, il continue jusqu'à la mort du croyant, ou jusqu'au retour du Seigneur, si le Seigneur revient de notre vivant. Et c'est pour ça que le mot est dans ce verset 3 du chapitre 4 de la première aux Thessaloniciens, ce mot de sanctification, de sainteté, est utilisé dans ce dernier sens, c'est-à-dire le sens d'un processus qui continue jusqu'à notre mort physique ou jusqu'au retour du Christ, si ça se passe de notre vivant. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Le péché donc spécifique contre lequel Paul avertit les Thessaloniciens, c'est l'activité sexuelle illicite. Alors c'était très répandu à cette époque-là, dans la Grèce antique, donc, et c'était aussi très répandu, comme c'est très répandu aujourd'hui, dans notre société. J'ai noté l'injonction de s'abstenir de la débauche est aussi actuelle aujourd'hui qu'au premier siècle de l'Église. Et il va dire au verset 4 du chapitre 4 que chacun de vous sache posséder son corps, c'est-à-dire maîtriser son corps. Très intéressant à notre époque, quand la société, au contraire, nous a donné comme slogan depuis mai 68, hein, « Je fais ce que je veux avec mon corps, je suis libre de mon corps, je fais ce que je veux ». Voilà que la Bible a aussi des slogans, mais c'est plus que des slogans, ce sont des commandements de Dieu qui dit « on va ensemble apprendre à ce que toi, mon enfant, tu apprennes à posséder, à maîtriser ton corps. Dans la version seconde, dans la version Summer, c'est que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. L'apôtre, dans le grec, emploie le mot « vase », qui est traduit dans chez nous par « corps ». Donc c'est le mot « vase », c'est comme une image du corps. Donc ça peut être soit celui de la personne concernée, comme en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, quand l'apôtre dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre », c'est-à-dire le trésor de l'Évangile qui nous a été révélé de la gloire, de la splendeur du Christ, la splendeur éternelle du Christ, au chapitre 4, verset 7 de la deuxième épître aux Corinthiens. « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. » Donc le vase de terre, c'est son corps, c'est nos corps. Mais ça peut aussi être, comme Pierre l'utilise au chapitre 3, verset 7 de sa première épître, ça peut parler du corps des épouses. Lorsque Pierre dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un vase plus faible. » Donc c'est traduit par « second » comme un sexe plus faible, et c'est aussi traduit par certains comme un vase, dans le mot grec utilisé, littéralement c'est « vase ».« Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. » Donc, nous sommes appelés, d'une part, à maîtriser notre vase, notre corps, et dans le cadre du mariage, nous sommes aussi appelés à la même chose et au respect de l'un de l'autre, comme vous le savez. Pourquoi ? Parce que pour les païens, le sexe est un moyen de se livrer à la convoitise passionnée. Je peux pas trop m'étendre là-dessus, mais j'ai participé à la fête des voisins, il y a 3 semaines, je crois, ou un mois, je sais plus bien. J'ai remarqué un peu les groupes de voisins, et puis les conversations dans chaque groupe. Il y avait des conversations que je vais qualifier de déplacées, pour certains de mes voisins, malsaines, des conversations malsaines, qui tournaient autour de ce sujet du sexe, et puis, d'autres groupes, fort heureusement auxquels j'appartenais, vu ma position géographique là où on m'a assis, c'était beaucoup plus sain, beaucoup plus plaisant, beaucoup plus agréable. Et je me suis dit, c'est curieux, parce que sans qu'on le sache, sans qu'on le veuille, c'est drôle, les individus qui se ressemblent s'assemblent, donc les individus qui parlaient de choses déplacées étaient tous à un bout de la table, et puis les autres étaient à l'autre bout. Et très drôle, personne ne nous avait placés à l'origine, enfin si ce n'est Dieu qui nous a guidés, qui a veillé sur nous, sur ma femme et sur moi, et puis sur les autres. Et au verset 6 du chapitre 4, il est dit que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté dans la traduction seconde. Et Summer traduit qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre, comme nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. Portant atteinte à ses droits, certains commentateurs pensent que c'est une allusion à l'adultère qui porte atteinte à la relation du couple marié. D'autres commentateurs y voient du tort causé dans le domaine des affaires. Mais ce groupe de commentateurs reconnaît quand même que le changement de sujet est assez brutal. D'autant plus que le verset 7, le verset qui suit, parle à nouveau d'immoralité sexuelle, d'impudicité, d'impureté. Donc c'est pour ça que certains vont traduire ce verset, l'appliquer dans le cadre du mariage. Et quand on passe au nombre de situations assez surprenantes à notre époque, de personnes chrétiennes qui partent avec d'autres, des femmes d'autres chrétiens. Enfin, hélas, c'est ce qui se passe dans les églises sur tous les continents. C'est assez surprenant. Il semblerait que... Enfin, c'est désolant, je veux dire, plus que surprenant. C'est surprenant et désolant. Mais c'est intéressant de voir qu'à l'époque des Thessaloniciens, l'apôtre déjà développe cet aspect des choses. Et il dit donc, pourquoi ? Parce que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification, verset 7. Et Sommer va traduire, car Dieu nous a pas, le verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Et l'apôtre dit aux Thessaloniciens, quelle que soit l'interprétation qu'on va donner à ce verset 6, que ce soit dans le monde des affaires ou dans l'intimité des couples, celui qui rejette ses préceptes ne méprise pas simplement l'enseignement d'un homme tel que Paul, il défie, il dédaigne et rejette Dieu lui-même et n'en tient pas compte. Alors que Dieu nous a aussi donné son Saint-Esprit. N'oublions pas que l'apôtre rappelle tout simplement que ce ne sont pas simplement des préceptes d'hommes, c'est Dieu qui veut que nous vivions ainsi. Et ça donne donc toute une perspective à notre progrès, à nos progrès, concernant le développement de notre vie de sainteté. C'est Dieu qui veut ces choses. C'est Dieu qui va être à l'origine, qui est, pardon, à l'origine de ces choses et qui est aussi à l'origine de la possibilité de vivre ces choses. Et pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que quand on regarde le verset 3, le verset 2 et le verset 8 de ce passage, chapitre 4, des versets 1 à 8, dans le verset 3, on voit le Père qui est indiqué. Dans le verset 2, on voit le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et dans le verset 8, le Saint-Esprit. On remarque donc les trois personnes de la Trinité sont mentionnées dans ce court passage, dans ce paragraphe. Toutes les trois personnes de la divinité s'intéressent à la sanctification du chrétien et s'y impliquent. C'est-à-dire que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit agissent de concert dans nos vies pour nous permettre de vivre ces choses. C'est pour ça, pour terminer, qu'au chapitre 5, versets 23 et 24 que j'ai lu tout à l'heure, nous pouvons trouver cette déclaration que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Soyons donc vous et moi sensibles tout au long de notre vie, tout au long de nos journées, soyons sensibles à l'action de Dieu dans nos vies. Comprenons, au travers des situations que nous rencontrons, ce que Dieu est en train de faire. Assurément, il est en train de nous sanctifier pour la gloire de son nom.